nous allons consacrer une série de 6 conférences au sport en l'abordant de tous les points de vue, du point de vue médical comme ce soir, du point de vue économique, du point de vue de la modélisation scientifique, du point de vue de la réflexion sociologique ou de la réflexion en général. Et nous avons choisi, un peu par provocation, mais en fait aussi peut-être par réalisme, de commencer par le dopage, puisque c'est, semble-t-il, une des réalités importantes du sport. Et nous avons fait appel ce soir à Gérardine, dont vous allez voir quand je vous donnerai la biographie et les travaux, qu'il est tout particulièrement qualifié pour cela. Gérardine est né en 1951. Il est chef du service d'hématologie et d'immunologie à l'hôpital de Troyes et président de l'Institut biotechnologique de Troyes. Mais il est aussi, je ne sais pas ce que ça nous promet pour l'avenir, professeur de biotechnologie à l'École centrale de Paris. Alors, quand on connaît la réputation de l'École centrale de Paris pour le bricolage technologique de très haut niveau, il y a quelque chose de particulièrement intéressant, à savoir qu'on y a créé une chaire de biotechnologie et que c'est Gérardine qui l'occupe. Alors, quelques mots sur le parcours de Gérardine. Il est docteur en médecine depuis 1978, praticien des hôpitaux publics, chef du service d'hématologie et d'immunologie de l'hôpital de Troyes, chargé de conférences d'abord à l'École centrale de Paris et professeur à l'École centrale de Paris depuis janvier 2001. Il faut dire que non seulement il est médecin, mais qu'il est aussi sportif de haut niveau, puisqu'il a été sélectionné à de nombreuses reprises dans l'équipe de rugby de Nouvelle-Calédonie. Il a été médaille de bronze au 6e jeu du Pacifique avec l'équipe de Nouvelle-Calédonie. Et puis, il a poursuivi sa carrière sportive, cette fois-ci de l'autre côté de la barrière, puisqu'il a été responsable de la préparation physio-biologique des équipes de France de rugby, de 1986 à 1991, directeur des laboratoires de biologie de l'effort lors des 16e Jeux olympiques d'hiver à Albertville en 1992, directeur scientifique du programme de biologie du sport du ministère de la Jeunesse et des Sports en 1998, et qu'il est conseiller technologique, j'espère qu'il nous parlera de choses très intéressantes, conseiller technologique auprès du président de l'Union cycliste internationale à Lausanne depuis 2000. Il a publié de très nombreux articles spécialisés dans des revues nationales et internationales, et j'en mentionne juste quelques-unes pour vous donner une idée de la gamme de ses compétences. Suivi biologique des internationaux de rugby français, étude des résultats dans évaluation physiologique et traumatologie en sport, en 1992. Aux éditions de l'Université de Bordeaux 2. Je ne vais pas vous dire tous les lieux, mais je donne les quelques titres. La biologie moléculaire incontournable, le suivi biologique dans la préparation de l'équipe nationale de rugby, surveillance biologique dans l'entraîneur fédéral, encadrement biologique des triathlètes, mécanismes fondamentaux du dopage, altération musculaire observée lors de l'effort physique intense chez l'homme, donc ça, c'est très intéressant pour comprendre le cas de Zidane, je pense. Détection des produits dopants, intérêt et limite, le suivi biologique, une révolution de haut niveau, paramètres biologiques et récupération, application au triathlon, biologie et prévention en traumatologie du sport appliqué au football, les applications des biotechnologies à la santé, etc., etc. Il est l'auteur d'un ouvrage, ça ce sont les articles, les contributions spécialisées que vous retrouverez sur les sites internet, mais il est l'auteur d'un ouvrage écrit en collaboration avec Patrick Laure, publié aux éditions Masson en 2001, qui s'appelle « Exploration et suivi biologique du sportif ». Voilà, j'ai présenté Gérardine, je vais maintenant lui donner la parole pour 50 minutes à une heure de conférence, et ensuite il nous expliquera tout ce que nous avons toujours voulu, il répondra à nos questions, et j'espère pas trop indiscrètes, sur toutes les manières de se doper et de ne pas se doper. Voilà, merci.
Je vous remercie les organisateurs de m'avoir invité. Effectivement, j'ai un parcours qui peut paraître un peu surprenant puisque je relève de plusieurs cultures. Une culture médicale, une culture d'ingénieur et une culture de biologiste. Et donc, je n'ai pas abandonné la médecine hospitalière puisque je dirige toujours un service d'hématologie. L'hématologie est une des disciplines qui a le plus progressé depuis 30 ans. Et c'est elle en particulier qui a lancé depuis une quinzaine d'années, l'utilisation des cellules souches, les greffes de moelle osseuse, les autogreffes de moelle osseuse. Toute cette révolution dans le mécano-biologique qui est en train d'évoluer, ces compétences dans le domaine des cellules du vivant, du monde animal, sont à la base des thérapies géniques également. Je suis donc utilisateur d'un certain nombre de produits biotechnologiques qui parfois posent des problèmes d'emploi en termes éthiques quand ils ne sont pas employés dans le domaine médical. Par exemple, depuis 1988, nous utilisons très largement l'EPO, l'érythropoïétine, bien entendu, mais pas uniquement pour des sportifs, vous pouvez l'imaginer. C'est un médicament exceptionnel dont les indications sont très grandes et qui a changé la vie de beaucoup de patients. Sur le plan de la recherche, donc, je travaille pas du tout dans l'amont fondamental, mais dans l'application. C'est pour ça que je suis à l'École centrale de Paris, dans le domaine de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande difficulté dans les sciences du vivant et de la santé, c'est de définir des produits qui soient utilisables de manière fiable, avec si possible un coût qui soit réaliste par rapport aux sociétés, qu'elles soient occidentales ou qu'elles soient les sociétés des pays du Sud, parce que éthiquement, si on n'arrive pas à régler ce problème d'adéquation sur les biotechnologies, on sera confronté à une fracture absolue, y compris dans les pays occidentaux. Dans ce cadre-là, j'avais une culture sportive dont on a parlé et que je ne regrette absolument pas. Mon sport est le rugby. Le rugby était un sport dit amateur il y a une quinzaine d'années. Et nous avons vécu une mondialisation acharnée à partir de la première coupe du monde de rugby. Et le rugby est devenu un sport professionnel. C'est un sport excessivement spectaculaire, un sport très collectif, un sport où les qualités physiques et physiologiques des acteurs, quelle que soit leur sens technique, leur capacité technique ou leur sens tactique, sont très importantes. Et le rugby est un sport de combat collectif, je crois que c'est l'un des seuls, avec le football américain probablement, où l'amoindrissement de l'adversaire dans les règles du jeu fait partie du jeu. À partir de là, il est bien évident que la progression de la rationalité de l'entraînement dans ce sport, à cause de la professionnalisation, ne peut qu'interpeller. Et c'est un peu là-dessus que je finirai, puisque il y a une dizaine d'années, j'avais pris du recul vis-à-vis de l'environnement du sport de haut niveau, et que depuis 2 ans, à la demande des responsables de la Ligue professionnelle de rugby, je suis le président d'une commission qui s'appelle Biologie et prévention, parce que dans la professionnalisation du rugby, nous avons décidé de travailler sur l'amont, de mettre en place des systèmes d'amont, et non pas de se contenter de contrôler a posteriori. C'est une question non seulement d'enjeu pour les sportifs, mais de survie pour notre sport. Donc je vais attaquer tout de suite. Pendant quelques minutes, je vais vous donner quelques rappels, de façon à ce que, ensuite, quand je vais rentrer dans le vif du sujet, il n'y ait pas de difficulté de compréhension. Depuis 100 ans, on vit dans le monde de la biologie cellulaire. Les Français appellent ça l'ère pasteurienne, dans d'autres pays également. Et on a donc acquis, en une centaine d'années, l'ensemble de la connaissance des cellules du vivant, les cellules végétales, les cellules bactériennes, mais également les cellules du vivant animal. Depuis une cinquantaine d'années, nous sommes rentrés à partir de cette vision de la maîtrise et de la compréhension cellulaire dans l'ère de la biologie moléculaire, biologie cellulaire, biologie moléculaire, à partir de la découverte du code qui permet le contrôle de la cellule, unité fondamentale notamment de la vie du vivant animal, ADN, ARN et protéines qui sont les composants majeurs des organismes pluricellulaires que nous sommes, sont les briques, les protéines, mais je vous rappelle que les protéines ne sont pas des briques, ce sont également des centaines de biocatalyseurs. C'est ce qui permet le fonctionnement de nos cellules et la relation entre les groupes cellulaires, environ 200 groupes cellulaires différents, qui constituent les tissus ou les organes. Ça dépend comment les choses géographiquement se passent. Depuis une vingtaine d'années, nous avons maîtrisé, nous sommes rentrés dans le contrôle moléculaire de la cellule. Et là, ce n'est plus un processus de connaissance, c'est un processus technologique. C'est pour ça que je parle de saut technologique permettant de passer de l'utilisation de cellules naturelles à la production contrôlée de cellules reprogrammées. C'est ce saut technologique qui, depuis une vingtaine d'années, a fait exploser une partie des biotechnologies, de ce qu'on appelle les biotechnologies. Depuis une quinzaine d'années, le génie génétique est une utilisation scientifique, médicale, mais également industrielle. Le génie génétique est à la base des organismes génétiquement modifiés. Le premier maïs transgénique par une transfection végétale, c'est-à-dire une modification, je vous expliquerai un tout petit peu après, le premier maïs transgénique de Monsanto est sorti quasiment en même temps que la première érythropoïétine, la première EPO recombinante. Mais là, il s'agissait d'une transfection animale. Donc l'intérêt du génie génétique, à partir de la maîtrise des cellules comme support, comme outil de production, le vivant devient un outil et n'est plus quelque chose qu'on regarde et quelque chose qu'on soigne. C'est un outil et les ingénieurs sont donc les éléments intégrateurs entre les scientifiques et pour la santé les médecins. Ce génie génétique a permis de rentrer dans le système et de faire produire des cellules, qu'elles soient végétales, bactériennes, levures ou animales. Transfert de gènes avec l'information nécessaire pour produire au sein de lignées cellulaires adaptées ce que vous voulez. 1982, l'insuline, et l'explosion à partir de 1988, quand on a eu maîtrisé technologiquement ce qu'on appelle l'amplification de l'ADN en dehors d'un système vivant, c'est-à-dire dans un système strictement technologique, au sein d'appareillage. Aujourd'hui, nous pouvons amplifier l'ADN, et c'est fait dans des applications très très larges qui vont de la médecine légale, par exemple, ce qu'on utilise en médecine judiciaire, ce qu'on appelle les empreintes génétiques, pour le diagnostic biologique dans certaines maladies déjà en routine, en génie génétique ou en thérapie génique. Et bien entendu, l'ubiquité du vivant est telle que ça se fait aussi bien dans le végétal, l'animal, que ce soit l'être humain ou le non-être humain. Ici, vous avez un exemple. Vous avez des hamsters chinois. En 51, on a réussi à isoler leurs cellules d'ovaire. C'est pour ça qu'on appelle ça les cellules CHO, Chinese Hamster Ovary. Et on est capable, depuis 51, de faire produire, en dehors du hamster chinois, en lignée continue, dans des petites boîtes ou des grosses boîtes, ces cellules vivantes. Aujourd'hui, en production industrielle, ou en production de recherche, il existe des dizaines de lignées cellulaires continues, dont des lignées cellulaires humaines. On y reviendra. À partir de là, le génie génétique, c'est donc, par exemple, pour le facteur 8, qui est le facteur de la coagulation impliqué dans l'hémophilie, et vous savez ce qui s'est passé, avant, on prenait le facteur 8 à partir de donneurs, et à cause de ça, on a été très gêné par la transmission de maladies virales. Aujourd'hui, on sait fabriquer le facteur 8 par génie recombinant. Donc, on a ce facteur 8, on l'intègre dans un vecteur et on va l'intégrer dans une cellule CHO. Ces cellules CHO vont être cultivées dans des réacteurs qui font 3 à 4 mètres de haut. Si vous avez déjà visité une entreprise où on fait du lait, du beurre, du fromage, si de manière industrielle, ou si vous êtes allé dans une... dans un endroit où on fait du vin, ce sont ces grandes cuves, et bien c'est exactement la même chose, c'est la même base technique. Sauf que dedans, ces cellules CHO sont transfectées et elles vont produire le facteur 8, mais également l'érythropoïétine, mais également l'insuline, mais également aujourd'hui une cinquantaine de molécules et demain 200 pour traiter les gens. La thérapie cellulaire, c'est donc la possibilité de cultiver nos cellules à partir des cellules souches en dehors de notre corps pour fabriquer. Donc vous voyez déjà un certain nombre là d'exemples. On utilise pour cela dans les boîtes d'expérimentation ou industrielle des facteurs de croissance qui sont également des protéines qu'on fabrique par génie génétique. Donc vous voyez cette notion également de progression pluridisciplinaire, parallèle, exponentielle et collective qui aboutit à véritablement une accélération de l'histoire. Ça, c'est une publicité d'une société américaine qui fabrique des cellules souches à la demande. Et à partir, par exemple, d'un recueil de cellules souches sur une prise de sang un peu compliquée qu'on appelle une citaférèse, c'est-à-dire on va aller pêcher des cellules souches qui viennent de la moelle osseuse, on va les repérer, on va les capter et on va les mettre en culture. Et en fonction du cocktail de facteurs de croissance qu'on va utiliser dans le milieu extemporané, en dehors du corps, on va les transformer en cellules musculaires, cellules tendineuses, cellules osseuses. C'est cette révolution des cellules souches qui est actuellement en cours. C'est pour ça que le débat existe. Nous avons plusieurs possibilités de cellules souches. Le débat éthique est sur les cellules souches d'en haut, c'est-à-dire très précoces, probablement, on n'en sait pas encore grand-chose, le meilleur matériel. Mais en fait, depuis, beaucoup de travaux existent sur les cellules souches adultes, c'est-à-dire qu'on sait un petit peu repérer dans le corps de même de quelqu'un de 80 ans des cellules souches qui ne sont plus activées dans le corps de la personne de 80 ans, par exemple au niveau du cerveau, et placées dans des conditions différentes, avec des facteurs de croissance que cet individu ne fabrique plus, on peut réactiver ces cellules souches pour refaire ce pour quoi elles étaient programmées. Donc vous voyez, c'est un véritable mécano. Et pour finir, la thérapie génique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est du génie génétique dans des cellules, sauf qu'on fait ça dans le corps. Donc là, on a véritablement un organisme pluricellulaire génétiquement modifié. Donc c'est une modification de groupe cellulaire déficient ou pathologique par transfert de gènes portant l'information pour corriger un dysfonctionnement. Vous savez que la première thérapie génique a été réussie de manière médicale sur des enfants qui avaient un dysfonctionnement immunologique avec une très bonne indication, que c'est une équipe française qui a réussi ça. Ça veut dire que vous avez l'ensemble du paysage. Il faut rappeler que l'être humain est un organisme pluricellulaire et que donc toute cette compréhension n'a aucun intérêt si on ne fait pas de la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement normal, de la physiopathologie quand on veut faire de la médecine, et que l'organisme pluricellulaire qu'est l'être humain communique par énormément de systèmes, avec en particulier beaucoup de protéines. Placer cela au niveau du sport, vous allez comprendre pourquoi ce rappel était nécessaire, parce que aujourd'hui, le sport de haut niveau est un enjeu très important qui a largement dépassé l'aspect ludique ou l'aspect culturel. C'est le plus grand spectacle planétaire que nos sociétés aient réussi à organiser. C'est un processus d'exemplarité et d'identification, et ce n'est pas moi qui veux dire le contraire, parce qu'aujourd'hui, toujours devant un match de rugby, en fonction du match, j'ai toujours un frisson. Et à partir de là, ça touche au corps humain. Donc une partie des gens qui regardent peuvent s'identifier puisqu'ils ont le même corps. Et ça touche aux gestes. À partir de là, quand cette activité devient aussi un business ou le support d'une politique ou le vecteur d'un affichage, quel qu'il soit, on a les moyens éventuellement de se payer le dernier cri de la technique. La problématique étant que dans 80% des sports, les acteurs et les moteurs du spectacle sont des êtres humains qui vont fonctionner avec le même corps que l'ensemble des spectateurs et avec simplement des qualités physiologiques, physiques et mentales probablement supérieures et en tout cas entraînées. Mais ils vont rester prisonniers de cet encadrement qu'est le corps humain. Donc l'évolution de l'espèce humaine sur cette planète et par conséquent un déterminisme génétique relatif et une progression liée à l'entraînement rationnel qui ne pourra pas être au-delà d'un certain nombre de clés qui sont les clés de notre espèce. 90%, ça c'est un schéma musculaire, on maîtrise 90% des gènes, des protéines de la cellule musculaire, qui est à la base du mouvement. Génétiquement, nos fibres musculaires sont préprogrammées et l'entraînement peut arriver à modifier partiellement, selon des sports et les activités, ce déterminisme génétique. Ça veut dire que je suis en train de vous expliquer qu'en fonction de la discipline sportive, on est ou on ne naît pas potentiellement champion. C'est point à la ligne, on peut ne pas l'accepter ou l'accepter. Et depuis 30 ans, le sport moderne a mis en place, qu'il l'ait affiché ou qu'il ne l'ait pas affiché, tous les systèmes nécessaires, en utilisant bien sûr la science. Et j'ai vu qu'il y aura une conférence sur ce sujet, donc je ne vais pas développer. La science appliquée au corps humain, tous les sports ont donc utilisé ces données pour sélectionner de la meilleure manière qui soit les sportifs. L'énergie du mouvement est une seule molécule qu'on appelle l'ATP. Et il n'y a pas 36 solutions au niveau de la structure musculaire, qui est donc un matériel vivant, et qui donc dans sa partie matérielle relève du vivant, donc de tout ce que je viens de vous dire. Mais également dans l'énergie, on est dans une énergie biologique qui va créer un mouvement. Et donc l'oxygène arrive sur la droite, et on a la possibilité de réagir vite, mais pas longtemps, ou de s'adapter pendant un certain temps dans un système d'équilibre. Et dans l'organisme pluricellulaire, je suis désolé pour ce schéma, c'est un schéma simplifié, voilà ce qu'est un sportif. Je vous rappelle que le sportif garde quand même un cerveau, contrairement à certaines idées reçues que j'ai eu à affronter quand moi-même j'étais sportif. Parce qu'un joueur de rugby qui revenait cabosser dans un laboratoire de biologie moléculaire, ça faisait pas, comme on dit, politiquement correct. Il fallait avoir l'air rat de laboratoire. Donc, si vous voulez, lorsqu'un sportif s'entraîne 20 à 30 heures par semaine, il est soumis à un stress. Quand il fait un match tous les 3 jours, il est soumis à un stress. Et ce n'est pas un stress d'extérieur. C'est un vrai stress physiologique, physiopathologique. Et donc là, il y a une césure à faire. L'exercice physique est très bon pour la santé, je vous le recommande. Je m'y astreins moi-même dans un cadre de sport santé. Et c'est probablement une arme absolue vis-à-vis d'un certain nombre de challenges sur le vieillissement. Par contre, 20 à 30 heures de sport par obligation professionnelle, ce n'est pas du tout bon pour la santé. Ça, c'est clair. C'est un stress pour l'appareil locomoteur, je ne parle pas que des chocs, mais c'est également un stress permanent pour le tissu qui va être le moteur du mouvement, c'est-à-dire le tissu musculaire. Et tout ce qui tourne autour de notre organisme, c'est-à-dire tout ce schéma, va être là pour adapter, régulariser, faire face. Donc on est vraiment dans une situation de stress tissulaire, plus ou moins important. Tous les systèmes de régulation, d'ajustement, de provisionnement d'énergie vont fonctionner. Par exemple, quand vous faites un jogging à vive allure, à l'allure qu'on appelle votre vitesse aérobie ou votre seuil anaérobie, c'est-à-dire que là, vous êtes au bord de la rupture d'équilibre. Or, le sport de haut niveau, c'est en permanence la rupture d'équilibre. Ce n'est pas du sport santé. Si vous courez au bout de plus d'une demi-heure, 90% de votre débit sanguin va être réservé pour les muscles qui travaillent, pour le cœur et le cerveau. Le reste va être chanté. Ce sont des principes physiologiques qui sont très très connus et depuis une trentaine d'années, bien sûr, qui expliquent la limite du sport. Et l'entraînement va donc consister à dépasser les limites en améliorant le système. Ce qui veut dire que, donc, dès qu'on est dans le sport de haut niveau, le but de l'opération, ce n'est pas d'être en bonne santé, c'est d'être au-delà de la limite, si possible chez des gens qui ont été sélectionnés par rapport à des qualités qui, normalement, sont déjà au-dessus de la norme standard physiologique. Je vais vous donner un exemple par rapport au battage qu'il y a eu sur l'érythropoïétine. Dans les sports d'endurance, le transport d'oxygène, la disponibilité de l'oxygène, l'utilisation de l'oxygène est directement corrélée à la performance, quelle que soit la cylindrée génétique et l'adaptation de l'entraînement. Et donc là, je vous ai fait une progression de ce qui a été vu depuis 30 ans, parce que ce que je suis en train de vous montrer là, c'est connu depuis 30 ans grâce aux physiologistes scandinaves. Donc c'est entraînement rationnel en prenant si possible les meilleurs, très tôt, et en les entraînant bien. Stage en altitude, parce que l'entraînement est pervers pour tous les systèmes qui apportent de l'oxygène aux cellules en partant des poumons. Et en fait, du début à la fin de la saison, par exemple, votre taux de globules rouges, si on ne fait rien, va baisser. Plus vous vous entraînez, plus ça va baisser. Évidemment, ce n'est pas bien, puisque c'est le contraire qu'on souhaiterait obtenir. Donc, il faut jouer avec l'entraînement. Donc, on emmène les gens en altitude, ou les stages en altitude sont très difficiles, on les met dans des chambres hypobares, c'est-à-dire au niveau zéro, on va reproduire l'altitude pour stimuler la production de globules rouges, ou on va même créer des tentes hypoxiques, là on ne joue plus sur la pression, mais sur le mélange gazeux, ce qui fait qu'on peut aller à l'hôtel entre deux étapes avec sa tente hypoxique et dormir la tête dans la tente pendant que le reste du corps est dans le lit. Je vous rassure que ce n'est pas de la science-fiction. Nous sommes dans des préparations tout à fait utilisées. Et puis, bien entendu, en fonction des cultures, des éthiques, il y a une frontière qui peut être considérée comme étant dopante ou non dopante. Jusqu'à maintenant, les chambres hypobares et les caissons ou tentes hypoxiques n'ont pas été considérées comme dopants. La transfusion sanguine, à partir des années 70, a été largement utilisée. Lorsque l'EPO recombinante est arrivé sur le marché, c'était beaucoup plus facile à utiliser et donc beaucoup plus efficace. Donc on stimule la production des globules rouges. Puis depuis une petite dizaine d'années, le sang artificiel est en train d'arriver, les PFC, les hémoglobines réticulées dont vous avez entendu parler pour Sydney, par exemple, où comme tout le monde pensait qu'on trouverait l'EPO facilement, ce qui n'est bien sûr pas vrai, puisqu'il y a plusieurs EPO, on est venu sur les premiers sangs artificiels. Je tiens à vous rassurer, les biotechnologues dont je fais partie n'ont pas inventé ça pour les sportifs. Ce sont des produits fantastiques pour les patients. La dissociation de l'oxyhémoglobine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par ingénierie, on est capable d'améliorer la libération de l'oxygène à partir de l'hémoglobine. Ça, c'est un peu un must depuis un ou deux ans. Et bien entendu, on peut déjà agir au niveau microcellulaire sur le muscle lui-même. Les conséquences physiologiques, par exemple, de l'EPO, on augmente le transport d'oxygène. L'oxygène est très utilisé. Au plan de l'entraînement, les gens ne s'entraînent plus du tout pareil. En fait, on ne fait plus d'entraînement quantitatif, astreignant. On ne fait plus de l'entraînement qualitatif. Et donc, il y a deux façons de s'entraîner. C'est ça qui était apparu catastrophique depuis une dizaine d'années pour les techniciens du sport, qui sont des gens très compétents, et pour ceux qui étaient restés, bien sûr, dans une vision éthique. Je préfère utiliser le terme éthique que le terme de dopage, parce que vous allez voir que le processus est complexe. C'est qu'en fait, il y a deux façons de s'entraîner avec l'EPO, et celui qui prend de l'EPO ne s'entraîne pas du tout de la même manière. Les EPO recombinantes de première génération sont toujours en activité. Le contrôle antidopage tente désespérément au niveau des urines de les mettre en évidence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les choses sont beaucoup plus compliquées que cela a été annoncé il y a deux ans. En fait, la pression du contrôle antidopage sur la biotechnologie dopante est très délicate. Et en fait, ce contrôle antidopage, à la différence des produits classiques, chimiques ou biochimiques, ne peut pas complètement faire face au dérapage. Ça, c'est un abstract du congrès hématologique américain de 1999. On vous parle de l'EPO retard, celle que vous avez découvert en 2002 à Salt Lake City. Ces congrès, ce sont des congrès scientifiques, c'est des congrès où nous sommes. où l'information est donnée, où les produits sont développés. Cette biotechnologie est une réalité. Il suffit simplement de prendre les produits et de les appliquer. Donc les gens qui veulent utiliser cela vont dans les mêmes congrès que nous pour aller aux mêmes informations. Ça, c'est le moyen de faire de l'EPO par petits bouts. Il ne s'agit plus d'EPO recombinante, c'est toujours 99. Et ça, c'est la production, par exemple, par génie génétique de cellules souches modifiées qu'on met sous la peau et comme ça, on a une production d'EPO en permanence. Ce qui veut dire que le combat a posteriori, le combat toxicologique, n'est probablement pas la bonne arme pour faire face au dérapage auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, parce que la biotechnologie simule la vie et la toxicologie est handicapée pour reconnaître, bien entendu, des choses qui sont du règne biologique et non pas uniquement d'un extérieur chimique. Par exemple, c'est un abstract de 1997 d'un chercheur japonais qui a été traduit en anglais. Vous allez entendre parler de l'EPO naturelle, c'est-à-dire celle produite sur une lignée cellulaire continue humaine, produite de manière industrielle. Cette EPO va sortir d'ici quelques mois. Elle est intéressante au plan médical. Bien entendu, la possibilité de différencier de manière toxicologique cette EPO naturelle produite de manière industrielle sera quasiment impossible. Là, je vous montre également un petit système. Tout à l'heure, je vous ai montré sur un schéma ce qu'était un réacteur où on produit une molécule recombinante à l'extérieur. Ça, c'est un micro-bioréacteur qu'on peut mettre sous la peau. Et ce modèle marche avec des cellules transfectées et produit une protéine recombinante de manière filée dans l'organisme. Si vous y coupez dessus une petite puce, par exemple calculée sur le taux de glycémie, vous avez là la façon de produire de l'insuline en permanence. Le modèle marche très bien pour l'EPO. C'est une céramique compatible. Vous avez entendu parler également des hémoglobines réticulées. Ce sont les sangs artificiels. Là, vous avez une liste de produits dont certains sont essayés, vendus déjà. L'Afrique du Sud est le premier pays à avoir donné une autorisation de mise sur marché pour ce produit. Ces sangs artificiels, en fait, permettent de ne pas utiliser d'EPO. Ils ne sont pas décelables dans les urines. Il faut faire une prise de sang. En fait, c'est de l'hémoglobine qui circule en dehors des globules rouges. C'est un boost extraordinaire. Actuellement, la société Baxter est en train de faire une hémoglobine recombinante qu'on va repositionner dans des vésicules lipidiques pour faire un véritable sang artificiel. Alors vous allez me dire, ça c'est pour le transport d'oxygène. En fait, la révolution biotechnologique des vies dans le sport, c'est 1988, c'est également l'hormone de croissance. Pour faire beaucoup de sport, il faut avoir de l'endurance, mais il faut avoir de la puissance et de la résistance. Et vous allez voir que la démarche, bien entendu, est reliée. L'anabolisme protéique, c'est-à-dire faire du muscle, pour parler poliment. Donc, on peut améliorer le système par la nutrition, avec les acides aminés ramifiés. Bien entendu, depuis 30 ans, les athlètes d'État des ex-pays de l'Est ont montré que c'était beaucoup plus facile d'utiliser les stéroïdes, ce qu'on appelle les androgènes. Mais depuis une dizaine d'années, on a donc l'hormone de croissance, qui est un raccourci tout à fait spectaculaire, et qui a un avantage énorme vis-à-vis des stéroïdes, c'est qu'elle n'est pas du tout décelable dans les urines par le contrôle antidopage. Donc vous voyez que je suis en train de vous expliquer progressivement pourquoi les choses ont dérapé. C'est-à-dire qu'on a un arsenal qui était au début chimique, biochimique, puis biotechnologique, de plus en plus efficace, qui permet de couvrir de plus en plus d'opportunités par rapport à la charge et à la pression qui s'exerce sur les sportifs, sur le corps des sportifs, et bien entendu sur leur mental. Et de l'autre côté, on a la possibilité d'avoir des produits de moins en moins détectables par le seul élément de la lutte antidopage, qui était le contrôle toxicologique dont on a voulu laisser croire qu'il pouvait faire face. Au niveau de la GH, par exemple, qui est produite par l'hypophyse, notre cerveau produit des secrétagogues qu'on sait déjà fabriquer par ingénierie moléculaire Et donc, les premiers produits vont sortir, c'est-à-dire qu'on peut même les prendre par spray nasal, par exemple. Donc, vous vous mettez un petit coup de spray dans les narines, ça vous évite de vous faire votre petite piqûre au stylo, comme font les enfants qui ont besoin de GH. Il s'agit bien sûr de GH recombinante, qui est un progrès fulgurant, comme vous pouvez l'imaginer pour les gens qui en ont besoin, vis-à-vis de l'hormone de croissance extrait de cadavre. Dans ces conditions-là, le mécano peut être de plus en plus réparti. C'est-à-dire qu'on peut s'occuper de tel ou tel terrain. Tout à l'heure, je vous ai parlé de facteurs de croissance. En fait, nous disposons déjà de facteurs de croissance, d'environ 100 à 150 facteurs de croissance cellulaire qu'on utilise en fabrication industrielle. Certains sont déjà utilisés en thérapie de manière éthique, mais appliqués au sport, on a par exemple deux facteurs de croissance assez remarquables, IGF-1 et BFGF, qui permettent d'améliorer, à partir des modèles animaux qui ont été publiés il y a 2 ans seulement, d'améliorer la cicatrisation musculaire. Alors, il y a 2 façons de voir le problème. Soit effectivement l'individu a une vraie blessure mécanique, c'est-à-dire une dilacération musculaire, et à partir de là, ça peut être un progrès dans la thérapie vis-à-vis des enjeux. C'est une thérapie high-tech. Et donc, je peux vous indiquer que si Zinedine Zidane ne pourra pas jouer vendredi, c'est parce que justement, cette technique high-tech n'est pas entre les mains de tout le monde dans le monde aujourd'hui et qu'elle est essentiellement positionnée aux États-Unis et qu'elle ne sert, bien entendu, que les gens des États-Unis, puisque nous sommes dans un système, vous l'avez compris, secret défense, haut niveau, le sport est aussi un vecteur économique et un vecteur politique, et que ces produits ne sont pas encore commercialisés, mais sont déjà expérimentés, et que par conséquent, si Zinedine Zidane s'est blessé, ça montre que son corps est similaire au vôtre, ça montre que la charge qu'il a subie confirme bien la réalité de ce que je vous ai indiqué. C'est même excessivement prometteur parce que ça montre que c'est un être humain tout à fait normal et qu'il a donc le mérite de le rester. Et je crois qu'il faut le respecter en tant que tel. Ça veut dire aussi qu'effectivement, pour l'instant, ces techniques ne sont pas utilisées dans l'environnement de l'équipe de France de football. C'est peut-être un bien parce que si vous utilisez ces mêmes produits, non plus en cicatrisation clinique où l'individu a une blessure, mais en cicatrisation biologique où, grâce à nos outils biologiques, on peut repérer le moment où l'individu bouge son matériel musculaire, qui, je rappelle, est un tissu biologique, avec un certain nombre de produits qu'on sait mesurer. On va donc surcharger l'entraînement pour obtenir un optimum. Et avant que ça pète, excusez-moi ce terme pas très scientifique, mais qui est très sportif, on va arrêter l'entraînement et on va intervenir biologiquement. C'est déjà fait depuis 1 ou 2 ans dans un certain nombre de préparations, dans des sports un peu exceptionnels, comme l'athlétisme, par exemple, qui est un laboratoire d'essai. C'est ce qu'on appelle la préparation musculaire biologiquement assistée. Vous voyez là qu'on est vraiment au cœur d'une problématique. La charge, la surcharge, les enjeux et des outils qui sont d'un côté ou de l'autre côté. Le problème étant de savoir comment vous voulez les utiliser et par rapport à quels critères. Il est bien évident que vu les enjeux financiers énormes ou les enjeux politiques ou d'exemplarité politique, on peut penser qu'effectivement les choses basculent. Et elles ont basculé avec les ex-pays de l'Est, avec des produits biochimiques, et elles ont basculé avec les pays occidentaux depuis qu'il n'y a plus de guerre froide, parce que maintenant, on est dans une vision technologique. Un autre concept, c'est la réanimation sportive. Ça peut vous paraître bizarre. Je vous ai expliqué que les sportifs, dans certaines situations, étaient en phase critique, soit ponctuellement, entre 2 matchs, par exemple, soit à la suite d'entraînement. Suivant les disciplines, ça peut être quantitatif ou qualitatif, ça dépend de ce que vous faites. C'est-à-dire qu'un effort très précis de quelques secondes peut être critique au plan structurel, au plan du stress. Par contre, un effort très long peut être critique aussi, ça dépend du sport et de l'entraînement. Et donc, en une dizaine d'années, le concept de prise en charge par rapport au dépassement général ou localisé a évolué. Et ce qui bascule, c'est un peu comme le transport d'oxygène, c'est au moment où ça se passe. C'est-à-dire que tant que vous rechargez avec des perfusions, on est dans une vision médicale, même si un vestiaire de football n'est pas forcément une salle de réanimation, voir beaucoup de gens sous perfusion est toujours surprenant dans un environnement sportif. Ce qui devient délicat, c'est entre la recharge simple en acide aminé et l'utilisation de l'insuline et de l'IGF-1, c'est-à-dire que vous passez la barrière. Et donc là, on rentre dans un système de réanimation sportive, de refabrication de l'individu pour court-circuiter les phases naturelles de la récupération. Il faut savoir que ces méthodes ont été développées dans les années 95-97 par le football italien notamment. Le procès de Turin, la Juventus de Turin, qui se déroule depuis le début de l'année, a montré l'impact de l'environnement médical et scientifique sur le domaine. Pour aller plus avant, thérapie cellulaire d'emploi sportif, ça peut vous paraître de la science-fiction, ce n'est pas de la science-fiction. Aujourd'hui, il y a un produit cartilagineux qui existe, qui est commercialisé par plusieurs entreprises. L'entreprise leader est nord-américaine, c'est de la thérapie cellulaire. On fait pousser du cartilage avec des cellules souches qu'on prélève sur le patient. 4000 sportifs ont déjà été opérés. Ça reste de la réparation, mais on peut faire ça au niveau du tendon. Actuellement, des essais phase 3 sont lancés dans la Ligue nord-américaine de basket. La difficulté, c'est de savoir si vous allez utiliser ça en réparation ou en préparation, et bien entendu en muscles également, puisqu'on sait faire pousser les muscles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il existe même des programmes de thérapie génique tendineuse. On peut bien entendu penser que le marché, pour parler clairement, se trouve quand même dans le sport, parce que les tendinites, certes, sont ennuyeuses chez les sédentaires ou chez les gens qui travaillent, qui peuvent avoir des tendinites professionnelles. Beaucoup de métiers ont des tendinites professionnelles, donc ils pourraient bénéficier de ces traitements. En fait, pour lever une tendinite, en général, il suffit de modifier le geste ou de ralentir le geste. Parfois, ça fait partie du traitement. Donc, ces tendinites sont très ennuyeuses dans le sport parce que l'arrêt de la pratique est très long. Donc, bien entendu, c'est problématique en termes financiers. Et on peut transfecter des ténocytes avec les gènes des facteurs de croissance pour accélérer la cicatrisation. Donc, les modèles animaux sont déjà lancés dans plusieurs pays. Et à la limite, tant qu'on est dans une situation de blessure, encore une fois, ça peut être concevable. Le problème, c'est qu'on peut très très bien imaginer de fabriquer un tendon auto-cicatrisant pour éviter que les gens ne se blessent. Alors derrière, bien entendu, si vous faites une thérapie génique musculaire, comme ça, vous avez réglé le problème et de la propulsion et de la transmission. L'un des enjeux des maladies musculaires, c'est de pouvoir intervenir pour modifier la fonctionnalité musculaire, par exemple les myopathies. En fait, les modèles animaux sont très avancés parce qu'on sait faire d'autres choses que uniquement s'occuper des maladies myopathiques. Par exemple, au niveau des souris, on est capable de transférer une qualité musculaire d'un groupe de souris en lignée continue à un autre groupe de souris en lignée continue qui n'a pas les mêmes qualités. Et donc, vous avez ainsi la possibilité de transformer des souris malingres en souris hyper costauds que vous entraînez sur des petits tapis roulants et vous montrez que effectivement on peut jouer sur la typologie musculaire. Ce qui veut dire que bien sûr les modèles sont prêts et on peut donc imaginer que ces modèles pourront tout à fait être adaptés à l'espèce humaine. C'est simplement qu'une question de passage à l'acte. La problématique est une problématique éthique, c'est aussi une problématique de coût. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans le sport de haut niveau et c'est peut-être une des activités humaines qui peut se payer en première intention et rapidement, en tout cas sur un court terme, puisque ça a été fait pour tous les autres produits des biotechnologies, qui peut se payer ce type de produit. Pour finir, voilà comment, du point de vue qu'est le mien, qui n'est pas forcément un point de vue facile, c'est pour ça que j'ai conservé cette distance par rapport à ma position, pour qu'il n'y ait pas de débat avant le débat. En 100 ans, vous avez vu ce qui s'est passé sur la biotechnologie et vous avez vu ce qu'on est capable de faire et comment ce qu'on peut faire de manière éthique peut être dévié dans cette activité humaine qu'est le sport et ce que constitue aujourd'hui le spectacle sportif. Et bien en 100 ans, le dopage et le sport de haut niveau ont évolué parallèlement. Il y a 100 ans, il y avait un dopage historique sur des produits basique, l'alcool en était un, il y avait un parallélisme avec la guerre. Le dopage chimique est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale, sur les amphétamines de la Seconde Guerre mondiale, dont on dit qu'elles ont joué un rôle significatif pour la préparation des guerriers. Donc vous voyez ce parallélisme. Et à partir de 1975, il y avait la guerre froide, c'était le sport vecteur politique, et c'est la biochimie. C'est-à-dire qu'il y a une progression, molécules simples, chimie, biochimie, la chimie des molécules biologiques. Et donc, c'est les stéroïdes, ce sont les athlètes d'État. Et à partir de 1995, la découverte, parce que ça a été bien entendu avant le Tour de France 98, le Tour de France 98 n'est qu'un révélateur, c'est donc l'irruption de tous les dérivés des premières biotechnologies et la possibilité de savoir qu'on va avoir un mécano pour faire face à un cahier des charges vis-à-vis de l'exigence du terrain de sport en fonction des enjeux périphériques. En fait, donc, vous avez une progression scientifique avec une augmentation des enjeux, un transfert technologique et économique de plus en plus accéléré, qui est le fait des biotechnologies, effectivement, et une intégration sociale de plus en plus importante, et puis une mondialisation avec un impact comportemental et culturel. Donc il va falloir que nous vivions avec cela, y compris pour nous, puisque je rappelle que tous ces produits sont déjà utilisés par des gens qui ne sont pas des sportifs et qui veulent simplement, de manière licite ou pas licite, éthique ou pas éthique, ne pas vieillir. Donc pourquoi interdire éventuellement à des sportifs dont c'est le métier, ce qu'on autorise à quelqu'un qui n'est pas forcément malade et qui veut simplement ne pas vieillir. Il y a vraiment là un problème qui peut être à régler. Donc c'est une confrontation. Cette confrontation, en fait, vous voyez, c'est comme ces deux spirales. C'est l'environnement du sport de haut niveau et de l'autre côté, l'environnement, notre capacité à intervenir sur le vivant et donc à intervenir sur nous-mêmes. Cette capacité à intervenir sur nous-mêmes est venue, bien entendu, des progrès de ce que je vous ai effleuré simplement, avec cette accélération extraordinaire depuis 15 ans. L'irruption des ingénieurs dans le vivant. Le vivant n'est plus qu'un matériel, le vivant n'est plus qu'un outil de production. Je crois qu'il faut vous y faire, même si ça n'empêche pas la réflexion éthique. Tout ça a échappé totalement aux autorités sportives, qu'elles soient nationales ou internationales, a difficilement été perçu par les structures politiques qui ne sont pas forcément les meilleurs endroits pour faire face, même si un pays comme la France est responsable de la santé. Et c'est d'ailleurs comme cela que le problème, pour l'instant, est en passe d'être réglé. Et donc, en 1995, un certain nombre de personnes qui étaient à l'interface étaient un peu effarées de ce qui se passait, puisqu'en clair, cela ressemblait à une expérimentation humaine sauvage, sans protection, puisque la plupart des sportifs n'avaient pas le choix de faire autrement que de prendre pour rester compétitif. Sauf qu'on était en train de changer de monde. On était en train de passer du produit stimulant, de la chimie, à la transformation. Donc, l'organisme CNRS, qui est connu, je n'ai pas besoin de le présenter, on est toujours en train de dire parfois que le CNRS est une grosse machine. Une des missions du CNRS, c'est de faire des expertises collectives. Et dans la plus grande discrétion, de 1996 à 1998, Le CNRS a fait une expertise collective avec des sociologues, des psychologues, des médecins, des physiologistes et des biotechnologues comme moi. J'étais donc le rapporteur du thème 3, qui était le dépassement. Dans ce cadre-là, nous sommes allés, comme on dit pudiquement, au contact, dans la confidentialité que pouvait nous permettre le CNRS avec cette double liste de contacts. Nous n'étions ni des flics, ni des juges. Et ce que nous avons découvert, bien entendu, était au-delà de ce qui a été imaginé en 1998, parce que grosso modo, tous les produits dont je viens de vous parler, et dont certains commencent seulement à être imaginés, étaient déjà utilisés. En particulier le PO retard dont on a parlé à Salt Lake City, on savait qu'elle était déjà expérimentée. Une partie des gens que nous avons audités sous confidentialité ont été condamnés ou sont inculpés. Et simplement pour vous montrer la difficulté de cette situation, ici, vous avez un échange entre Martial Sogic et mon collègue qui dirige le laboratoire suisse antidopage, qui est également le laboratoire antidopage de l'UCI, l'Union cycliste internationale, dont les positions sont régulièrement décriées, parfois à juste titre, je vous le dis tout de suite. Et donc, en 1997, nous n'avons pas été capables, Martial Sogic et moi, dans le cadre de cette étude, avec tous les moyens technologiques qu'on avait à notre disposition, de faire ce qu'on appelle un suivi amont, un suivi biologique sur le Tour de France 97. Parce que, comme on dit pudiquement, les choses n'étaient pas prêtes. On peut penser que si nous avions réussi à faire cela en 97, on aurait pu éviter probablement en 98. En effet, biologiquement, en utilisant les outils biologiques, il est assez facile de repérer l'utilisation de ces produits qui échappent au contrôle toxicologique, mais ce n'est plus un contrôle toxicologique qui va exposer le tricheur et donc qui peut rendre bien service au système. C'est de la médecine et on reste dans la confidentialité et il faut changer de système. Donc on est capable de repérer assez facilement sur plusieurs semaines ou plusieurs mois quelqu'un qui prend de l'EPO, y compris la dernière EPO, l'EPO naturel. Par contre, ce suivi nous a mis en évidence une véritable catastrophe parce qu'une partie des déclarations était de dire les produits sont de plus en plus efficaces, on est de plus en plus proche de la réalité. Donc on est de moins en moins dangereux. L'organisme humain est le fruit d'une évolution avec un déterminisme génétique, une adaptation qui nous est propre à chacun d'entre nous par rapport à sa façon de vivre et à son environnement. C'est beaucoup plus rapide que beaucoup de gens le pensent. Et sur le plan génétique, il faut 3 ou 4 générations pour commencer à avoir des modifications au niveau de l'immunogénétique en particulier. Ça veut dire que lorsqu'on court-circuite le système d'adaptation avec nos systèmes biotechnologique, on va modifier le système. Et c'est ce qu'on a mis en évidence, et c'est pour ça que ça a été médiatisé d'une manière un peu surprenante, avec une exposition médiatique qui n'était pas forcément facile à vivre, surtout par rapport à ce travail confidentiel qui n'avait pas encore été publié au niveau du CNRS. Vous voyez que notre publication est de 99 seulement dans la revue American Blood. C'est que 80% des gens qui utilisaient de l'EPO pour que leur moelle osseuse puisse produire les globules rouges à hauteur de ce qu'ils voulaient, eh bien, il fallait qu'ils s'injectent du fer. Parce que le fer est le nutriment de base pour que la moelle osseuse marche. Donc quand on reprogramme quelqu'un, on le modifie, c'est ça que ça veut dire, et donc il faut changer de système d'approvisionnement. Et vis-à-vis du fer, ils étaient obligés de s'injecter. Ce qui veut dire qu'en fait, ils se sont rendus malades d'une maladie dont on commence à parler, qui est une maladie génétique qu'on appelle l'hémochromatose, qui est une surcharge en fer qui peut être problématique et qu'on sait très bien repérer aujourd'hui. Et donc là, vous avez une seconde publication de 99 sur les 3 premiers cas d'intoxication iatrogène par obligation de s'injecter du fer par rapport à la prise de l'EPO. Et c'est ça, en fait, qui a été explosif et non pas la compréhension du système, c'est qu'en fait, le problème est arrivé sur la santé des gens. C'est une véritable bombe à retardement. Aujourd'hui, des dizaines de sportifs qui ont utilisé l'EPO, qui ont été parfois obligés d'utiliser l'EPO, je défends les sportifs parce qu'il faut savoir ce qu'est faire face aux enjeux, sont dans cette situation, certains sont toujours en activité, et ils sont soignés comme les patients qui ont des hémochromatoses, on leur fait des saignées thérapeutiques, ce qui est quand même le comble pour des gens qui voulaient monter leur globule rouge. Donc, détermination de profil biologique, le sport de haut niveau, c'est agressif, il faut donc mettre en place autour des sportifs de haut niveau une véritable médecine préventive, même s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont quand même le droit d'être protégés. Les pilotes de ligne qui nous transportent ont une médecine préventive de très haut niveau. Je ne vois pas pourquoi les sportifs de haut niveau qui font rêver 2 milliards de personnes ne pourraient pas bénéficier de cela, mais d'une manière transparente et avec une traçabilité. Physiologique, pathologique, on est dans la médecine, dans le professionnel, et on relie ainsi la pratique des individus à leur charge. On n'est plus du tout dans la volonté de trouver des tricheurs, le vilain qui a fauté. Et si possible, il faut le prendre pas trop connu parce qu'il n'est pas trop riche, comme ça il ne pourra pas se payer des avocats très puissants pour trouver le vice de forme. On est dans un système manichéen et il faut qu'on en sorte par rapport à ce que je viens de vous dire. Ces concepts ont été intégrés progressivement. C'est très compliqué à faire bouger. Il y a beaucoup d'argent. On dit des chiffres. Le sport de haut niveau fait circuler, je crois, en 2001, 2 000 milliards de dollars. Ça correspond à 5% des échanges économiques, tout compris, c'est-à-dire en direct et en indirect par rapport au budget publicitaire ou aux produits directs. L'Union cycliste internationale, dont le président n'était pas forcément un ami à moi, en 1998, et qui en 2000 m'a nommé conseiller technologique, a pris conscience que le contrôle a posteriori était à garder, bien entendu, pour garder la pression, en particulier sur les vieux produits qui continuent à être utilisés, comme les amphétamines, le pot belge, enfin toutes les joyeusetés dont vous avez entendu parler. Mais on a mis en place cette traçabilité, ce sont les procédures internationales de surveillance des 1200 cyclistes professionnels du monde. Ça se met en place, c'est pas gagné, il y a un débat. Ça serait mieux si la communication se faisait bien et je voudrais vraiment avoir la certitude que Lance Armstrong ne soit pas dopé et qu'il soit le champion qu'il est parce qu'il serait un champion d'une exemplarité extraordinaire par rapport au cancer qu'il a eu et dont il a été guéri. Donc vous voyez, ce suivi est obligatoire. C'est une traçabilité biologique. C'est ce que nous avons développé pour Salt Lake City, avec la Fédération internationale de ski. Et c'est comme ça qu'on a pu pêcher les gens qui ont pris le PO au retard, qui est facilement trouvable dans les urines, beaucoup plus facilement trouvable que les EPO standards. Et donc, voilà la stratégie qui est développée par Michael Ashenden, qui est le responsable à l'Agence mondiale antidopage. C'est-à-dire qu'on change de concept parce que tout le monde a bien perçu, donc hématologique passeport, c'est-à-dire la traçabilité biologique, tout le monde a bien perçu qu'on avait changé de système à cause des enjeux, à cause de la technologie biologique. Et si on veut arriver à préserver quelque chose, si tant est qu'il y a quelque chose à préserver, par rapport au fait que le sport se fait avec des corps humains, des êtres, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire inverser la façon de voir les choses, parce que si on reste dans une vision coercitive, on a perdu d'avance, et effectivement, en 2050, quelqu'un fera une transfection musculaire et on aura quelqu'un qui sautera 3,50 m. Seulement, à ce moment-là, il faudra prendre la télé et la mettre comme ça. C'est tout. Alors, ça veut dire que ça concerne les sportifs, je suis d'accord. Ça concerne tous les gens qui sont autour du sport, dont certains gagnent beaucoup d'argent. Ça concerne l'ensemble des gens qui veulent être représentatifs, mais ça concerne tous les spectateurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander aux gens qui font du sport d'être des dieux. Il ne faut pas demander l'impossible. Et c'est pour ça que l'actualité me sert, puisque en même temps, vous savez que vous avez vu que sur le Giro, malgré tout le système que j'ai contribué à mettre en place, La problématique n'est pas réglée dans le cyclisme, comme elle n'est absolument pas réglée dans la plupart des sports, et il n'y a pas que le cyclisme. Donc, il y a une espèce d'utilisation d'un arsenal extrêmement large, où on voit des gens qui continuent autour des sportifs à leur faire n'importe quoi pour les enjeux. Ceci dit, on voit des mouvements, on voit les gens qui financent le sport prendre position, soutenir ces suivis a priori, puisqu'aujourd'hui, dans le système français, grâce à la loi qui a été votée en 1999, qui est une loi de prévention et de lutte antidopage, on s'occupe de la santé des gens, et les fédérations, comme les employeurs sportifs, ont la responsabilité de la santé de leurs sportifs. Ce sont les équipes professionnelles de cyclistes qui payent le coût du suivi. Et par exemple, pour le rugby, depuis 2 ans, c'est la Ligue professionnelle de rugby qui finance en direct, à partir de ses sponsors, cette traçabilité biologique des joueurs de rugby professionnels. Ce qui veut dire que donc, il y a moyen de faire, il suffit de trouver les relais économiques, puisqu'on est dans des sociétés de marché, et que la pérennité d'une action éthique ne s'engage et ne se pérennise que si on retrouve le relais économique. Tout le monde n'est pas complètement fou au niveau des firmes de biotechnologie. L'exemple, c'est Amgen, qui produit le PO retard. Depuis 2 ans, beaucoup de compagnies biotechnologiques ont compris qu'elles ne pouvaient pas laisser faire n'importe quoi avec leurs produits dans ce qui est aujourd'hui le plus grand vecteur médiatique de la planète, le sport. Donc il y a une évolution, il ne faut pas du tout être pessimiste. Ça a été chaud pour les gens concernés, puisque c'était au cœur d'un débat terrible, avec beaucoup d'argent, beaucoup de gens franchement pas honnêtes, beaucoup de gens qui ne voulaient pas que ça change et qui n'étaient pas forcément malhonnêtes. Et je pense qu'il y a une véritable question d'avenir pour le sport, et je suis persuadé qu'on devrait pouvoir trouver les solutions en 5 ou 10 ans. Pourquoi ? Parce que sinon, il n'y aura pas de finalité, il n'y aura plus de sport. À partir du moment où, comme je vous l'ai indiqué, vu la pression qui va augmenter, on pourra modifier les gens, comme m'a dit un entraîneur d'athlétisme bien connu, on vous fait le cahier des charges, on aura les rapports biomécaniques, avec les ingénieurs de l'école centrale, ce n'est pas compliqué de trouver le meilleur rapport, il faudra trouver la charge musculaire capable de faire la motricité, et la course de 100 mètres ne sera plus qu'un seul problème, il n'y aura plus que 2 problèmes dans la course de 100 mètres, le frottement des chaussures au sol et la pénétration dans l'air. Voilà. Donc le jour où vous verrez quelqu'un sauter 3,50 m en hauteur, ça voudra dire que quelque part il y aura une transfection, on l'aura fait. Le jour où vous verrez quelqu'un courir le 100 mètres en 8 secondes, ça veut dire qu'on l'aura bien manipulé au niveau des tendons et des muscles. Ça voudra dire aussi qu'on aura fait franchement pire dans toutes les autres applications de la biotechnologie. Et il y a des enjeux un peu plus importants dans d'autres domaines que le sport. Le sport n'est qu'une cristallisation, simplement, il nous heurte immédiatement. C'est pour ça que peut-être que grâce à cette cristallisation qui gêne tout le monde, on va pouvoir quand même faire comprendre qu'on ne peut quand même pas faire vraiment n'importe quoi avec ces techniques que nous maîtrisons. Je vous remercie.
Vous nous avez expliqué comment, en conclusion, lutter contre le dopage, c'était plus faire de la toxicologie ou plus seulement de la toxicologie, mais faire de la médecine. Est-ce que la situation actuelle ne montre pas malgré tout qu'il y a une limite à cette solution, quand on voit que tous les cyclistes professionnels ont un carnet de santé et donc que les paramètres biologiques dont vous avez parlé sont parfaitement connus et qu'on continue à voir les scandales éclater sur le Giro, ou quand on voit dans la Fédération d'athlétisme en France des sportifs qui sont parfaitement repérés comme mettant leur santé en danger par des pratiques de ce type, mais qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas empêcher de faire la compétition parce qu'on n'a pas les moyens juridiques de les mettre hors circuit. Donc si du point de vue intellectuel, on comprend votre démarche, quelle est la garantie d'efficacité à terme? Et autre question, est-ce que la définition même de ce qu'est le dopage n'est pas à revoir par rapport à la définition actuelle, je crois, qui est celle du CIO, qui caractérise comme dopage tout ce qui est un artifice permettant d'augmenter ses performances et mettant en danger sa santé? Est-ce qu'il n'y a pas une autre définition du dopage à prendre en compte?
Oui, votre question n'est pas confuse du tout. Je vais répondre à la dernière question. Je crois que la définition du dopage, effectivement, est à revoir, puisque je vous ai donné plusieurs exemples de situations limites, où en fait, on ne sait pas si on dope les gens ou si on ne les dope pas. Et ça me permet de venir à votre première question. Le problème des corticoïdes, par exemple, dans le sport, est un problème énorme. Utiliser des corticoïdes en infiltration articulaire ou autour des articulations chez un sportif qui a une blessure était considéré comme normal. En fait, une des retombées des suivis qui sont mis en place depuis 3 ans, c'est qu'on s'aperçoit que ces corticoïdes utilisés de manière locale ont des impacts beaucoup plus importants qu'on ne le croit sur l'organisme, avec une dangerosité par déconnexion de la production endogène de corticoïdes, ce qui veut dire qu'on arrive à créer des situations de risque pour les sportifs de haut niveau par une intervention thérapeutique. Et actuellement, le débat dans la communauté des médecins du sport et des instances sportives est si quelqu'un ne peut plus jouer que par ce qu'il est infiltré de manière permanente par des corticoïdes, est-ce que quand même ce n'est pas du dopage? Vous voyez qu'actuellement, le débat est en l'air. Donc, la frontière entre le dopage et l'environnement médical qui est aujourd'hui indispensable quand vous faites du sport de haut niveau pour résister ou tenir devient de plus en plus floue. Donc effectivement, la définition classique du produit stimulant pris de manière générale est en train de tomber. Avec les biotechnologies, vous avez vu que là, on est dans une situation totalement éthique. Donc il n'y a pas 36 solutions. Il faudra bien que tous les opérateurs se mettent autour de la table. Et les soubresauts que vous décrivez, dont vous pouvez imaginer qu'ils ne sont pas faciles à vivre, surtout quand vous êtes régulièrement concerné dans ces enceintes, eh bien, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, cette traçabilité montre que les gens dérapent, mais comme ils ne sont pas contrôlés positifs par un contrôle antidopage, ils ne sont pas considérés comme dopés. Donc il va falloir que les règlements changent. Alors, je crois que c'est un problème d'adaptation des institutions et des sociétés, c'est-à-dire qu'en fait, on a les outils beaucoup plus vite que l'organisation de nos sociétés. Simplement, dans le sport, il y a tellement d'enjeux et une telle grande pression que les apprentis sorciers se sont beaucoup plus amusés que dans d'autres applications des biotech. Sauf que là, vous avez vu tout de suite les différences. C'est vrai que moi, je suis très ennuyé quand, l'année dernière, ayant été un des experts de la Fédération internationale d'athlétisme, on a décortiqué l'utilisation des facteurs de croissance, de la préparation musculaire biologiquement assistée, et qu'on voit cette fédération internationale totalement impuissante par rapport à des gens dont on sait qu'ils utilisent cela et qui sont à 3 millièmes de leur record du monde sur une jambe en ayant une blessure musculaire. Mais là, on n'est pas resté dans la médecine traditionnelle que les Français utilisent en Corée actuellement, ou de voir, pour des raisons de vice de forme, une championne russe convaincue de prise de PO ne pas être déclassée. En ce moment, il y a un télescopage. Je ne suis pas persuadé qu'on va gagner. Moi, je fais partie des gens, comme souvent les joueurs de rugby, en plus d'origine irlandaise, qui voient plutôt les verres de bière à moitié plein. C'est une approche psychologique qui est peut-être très, très rade et pâquerette. Donc je pense qu'il faut essayer de faire en sorte qu'on arrive à bouger les choses. Je ne dis pas qu'on va gagner. Ceci étant, il y a quand même des évolutions assez remarquables. malgré le conflit des années 98-99, qui s'est fait souvent à mon corps défendant, il faut quand même remarquer qu'en 2002, aujourd'hui, le concept de traçabilité biologique est quand même repris par l'Agence mondiale, ce qui veut dire donc que dans les faits, les choses changent. Et de toute façon, le problème, je finirai sur l'absurde, si on ne règle pas le problème, vous aurez des gens qui sauteront 3,50 m, parce que nous saurons le faire. Il n'y a pas de problème, on saura le faire. Mais est-ce qu'il y aura des gens pour le regarder à la télé? Donc je vous retourne.
Je voulais vous poser une question simple. Est-il possible pour un sportif de très haut niveau de pratiquer son sport sans une forme ou une autre de dopage? Oui ou non?
Je vais être très clair, oui. Ça dépend le sport et ça dépend des moments. Par exemple, j'ai la certitude que les champions d'aviron français sont préparés actuellement de manière éthique. Le problème est bien entendu que l'aviron ne déclenche pas les foules. Et pourtant, c'est un sport extraordinaire, puisque c'est le sport que je pratique maintenant, puisque je ne peux plus courir à cause des mêlées de rugby de ma jeunesse et de mes hanches. Donc je peux vous dire que le sport est quand même assez pathogène. Donc ça veut dire qu'il y a un problème selon la discipline. Et puis après, il y a un problème selon les circonstances. Par exemple, en 1999, vous savez, il y a eu une Coupe du monde de rugby, et tout le monde disait que les Français seraient ridiculisés parce qu'effectivement, les trois pays de l'hémisphère sud ont tendance à ne pas avoir la même approche éthique qu'on a eue. Et donc, il a été décidé de faire le suivi et la traçabilité biologique à la préparation de l'équipe de France du rugby. Et donc, l'équipe de France du rugby était préparée, je peux vous l'assurer, sans hormones de croissance. Et donc, tout le monde nous voyait battus en quart de finale. Nous sommes d'accord. Parce que, et d'aucuns étaient en train de dire que ça serait à cause du suivi. Donc il fallait probablement taper sur la tête de ceux qui voulaient défendre ce concept. Et vous savez ce qui s'est passé. On a gagné un match alors que les 9 autres, on les aurait perdus contre la même équipe. Ça veut dire que dans le phénomène sportif, suivant les disciplines sportives et suivant les enjeux, on peut encore gagner. Mais dans d'autres disciplines sportives, en particulier celles qui sont les plus mathématiques, malheureusement, on peut de moins en moins gagner. Par exemple, l'athlétisme ou le ski de fond, on en a eu exemple à Salt Lake City. Depuis 10 ans, on ne pouvait pas gagner dans une épreuve endurante en ski de fond. Et depuis 5 ans, sur un marathon top, on ne peut pas gagner sans EPO, bien entendu. Il faut voir, on a gagné 5 minutes sur le temps moyen international sur le marathon et les coureurs de 10 000 mètres ont gagné 45 secondes. Nous avons des modèles mathématiques assez remarquables sur le 10 000 mètres. À cylindrée aérobie égale, pourcentage de cette cylindrée aérobie utilisée, donc s'il y a des gens qui sont férus de sport, ils me comprendront, pour l'autre c'est un peu plus compliqué. Donc, et à entraînement égal, 1,5 g d'hémoglobine de plus, au-dessus de 16 grammes, ça correspond à 1 minute d'écart sur un 10 000 mètres. 1 minute, c'est un tour. Voilà. Donc le gars que vous trouvez un peu ringard, quand vous regardez la télé aux Jeux Olympiques et qui finit à un tour de l'autre, c'est peut-être lui le champion. Voilà. Donc ça reste possible, oui, oui, oui. Mais ça va être de plus en plus compliqué quand même, hein.
Je voulais vous demander si vous ne pensez pas qu'on arrive à une période avec toutes les connaissances qu'on a sur le corps humain, que ça devient ridicule de vouloir absolument gratter des centièmes de seconde. Et pour ça, il n'y a pas que le dopage, il y a aussi le matériel. Quand on voit les sauteurs à la perche, un de ces jours, ils vont mettre un pétard au bout de la perche pour aller plus haut. quand on voit les vélos par rapport à ce que c'était au début du Tour de France, et ils trouvent toujours des techniques et puis des profils de chapeaux, de tout ce qu'on veut pour gagner encore des secondes. Moi, je trouve qu'à un moment donné, il faudrait, parmi les jeunes, quand on leur parle du sport, leur dire que la compétition, c'est bien, mais c'est un jeu. Le principal, c'est quand même la santé.
Je peux qu'être d'accord avec votre propos. La difficulté, c'est que, comme je vous l'ai dit, on est rentré dans une activité humaine qui est devenue, en fait, une organisation économique. Et donc, une partie de ces sportifs, qui au départ sont des gens qui sont allés vers le sport parce que c'était un jeu, et qui ont été repérés comme ayant les qualités nécessaires pour être des champions, et qui ont subi un apprentissage très long, investissent leur corps, et cela devient également, je crois que ça a été rappelé au moment de la Coupe du Monde 98, un élément de promotion sociale, pour ne pas dire d'équilibre sociétal. Donc, vous avez parfaitement raison, la difficulté, c'est qu'on est confronté à cela. Alors, pour vous montrer l'absurde de tout ça, par rapport au matériel, je peux même vous dire qu'on pourra faire des choses extraordinaires, puisqu'on va greffer des choses. Par exemple, depuis 1 ou 2 ans, on a la possibilité en biomécanique de travailler sur des matériaux synthétiques, polymères, en clair de vulgaire plastique, à qui on est capable de donner des particularités dynamiques et qui vont peut-être nous permettre d'être une interface par rapport à la thérapie génique pour redonner de la plasticité aux myopathes. C'est-à-dire que ces plastiques, dans des environnements biologiques, je vous assure que ce n'est pas de la science-fiction ce que je suis en train de vous raconter, aux mains d'ingénieurs, après le passage scientifique, vont pouvoir être optimisés pour pouvoir avoir des caractéristiques qui se rapprochent de la caractéristique du muscle. Donc, on va probablement, si on continue à délirer comme ça, par rapport à cette confrontation de spirales, pourra avoir des vrais hybrides. C'est-à-dire que vous aurez des hybrides bio-transformés en termes de biologie et qui auront des prolongements dans leur matériel. Comme ça, il y aura une performance améliorée. La connexion, par exemple, neuro-informatique est une réalité, de plus en plus. Les premiers produits sortiront dans 5 à 10 ans, à peu près, au niveau, par exemple, de nos sens. Ça sera un progrès extraordinaire. Et donc, si c'est utilisé de manière galvaudée dans le sport parce qu'il y a un enjeu, on pourra avoir des résultats surprenants. Donc, je pense qu'il faudrait effectivement revoir les données du problème. Mais il faut faire un brainstorming, c'est clair. Il faut mettre tout le monde autour de la table, mais il faut trouver les moyens de... On ne pourra pas lutter contre le spectacle, donc contre l'argent qu'il y a autour du spectacle. Comment voulez-vous faire? Donc il faudra faire passer ces idées dans le système. C'est ce que j'essaye de faire lorsque, par exemple, il y a 2 ans, autour de l'Union cycliste internationale, on a réuni l'ensemble des firmes biomédicales et biotechnologiques à Genève pour expliquer aux dirigeants de ce sport que s'ils ne faisaient pas attention, ce qu'ils avaient vu, c'était rien à côté de ce qui allait arriver. C'est ce qui explique peut-être le début de la prise de direction. Mais il faut le faire. Et ce n'est pas un combat franco-français, hein. Il faut arriver à convaincre la planète quand même. Ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est... Vous savez qu'il existe des écuries. Vous savez qu'il y a des gens qui vont acheter des sportifs en Afrique, par exemple, dans certains sports, qu'ils soient collectifs ou individuels. Vous seriez surpris de savoir qu'il existe des écuries de coureurs à pied, tanzaniens ou kenyans, qui vont se faire repérer ou éthiopiens, qui ont des intérêts. En général, c'est les gens qui organisent le sport dans ces pays, et ils touchent de l'argent pour trouver les bons, et ils sont repérés par des écuries internationales qui font du business. Donc l'idée, c'est d'arriver à comprendre ça, et puis faire comme une forme d'éco-taxe. Il faut être pratique, il faut être pragmatique face à à un dossier pareil. Donc de dire qu'on prend de l'argent, par exemple, sur les agents, sur les managers, sur tous les gens qui vivent du business sportif pour préserver le corps humain. C'est une des pistes qu'on a proposées il y a 3 ans face à la pression financière et au dérapage des technologies dont je vous ai parlé et que j'ai en fait fait que survoler.
Bonsoir, messieurs. Excusez-moi de vous poser une question qui peut quitter un peu votre domaine, mais je veux rester dans le cadre de l'Université de tous les savoirs. En lisant ce programme, on peut lire 1000 places pour vous doper au savoir. Est-ce qu'on peut se doper au savoir sans risque ? Merci.
Écoutez, je pense qu'on peut se doper au savoir parce que je peux vous dire que je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un peu quelqu'un d'hybride. Je suis entre plusieurs cultures. J'étais un peu quelqu'un d'hybride et j'étais entre plusieurs cultures et c'est pour ça qu'on m'a demandé à partir de 97-98 de concevoir la base technologique du suivi telle qu'il est aujourd'hui formalisé par la loi en France et telle que les institutions sont en train de le mettre en place. Autant vous dire que j'ai abandonné, bien entendu, toute velléité de participer parce que c'est quand même pas mon métier. Et comme vous avez pu le comprendre, je ne suis absolument pas un spécialiste du dopage. Hein, vous avez pu vous en apercevoir. Je n'avais jamais fait un contrôle antidopage de ma vie. Hein, j'ai été contrôlé quand je jouais, mais moi, comme acteur. Et donc, le dopage au savoir est effectivement intéressant parce que depuis 3 ou 4 ans, dans la partie confidentielle de mon travail, puis après dans la partie très médiatique qui était moins facile à gérer, j'ai beaucoup appris de choses, personnellement. C'est-à-dire que j'ai appris des choses effarantes. J'ai appris beaucoup de choses auprès des psychologues et sociologues par cette fameuse expertise collective. Moi, je suis dans un petit domaine et mon boulot, c'est d'utiliser des produits chez des patients parce que j'essaye de les soigner pas trop mal. Et de l'autre côté, un maillon pour faire que des produits très sophistiqués soient utilisables par nos sociétés avec toutes les acceptations que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire être produit correctement, pas coûter trop cher, mais coûter suffisamment pour faire vivre tout le monde, être acceptable, pas entraîner de maladies chez les gens, enfin, vous voyez, des contraintes très multiples. Donc c'est un travail d'applicateur, de chercheur en application technologique. C'est pour ça que je suis dans une école d'ingénieurs, même si c'est l'école centrale. C'est pour arriver à concevoir des systèmes très sophistiqués dans ce secteur-là. Et par conséquent, on peut être déconnecté de la réalité. Et quand on a fait cette expertise collective, j'ai vu les sociologues, les psychologues me raconter des choses que je ne comprenais pas du tout de l'utilisation et pourquoi ces sportifs utilisaient nos produits et pourquoi ils faisaient comme ça. Et une partie de ce que j'ai pu vous expliquer aujourd'hui et vous le formaliser, c'est parce que je l'ai appris avec eux. Donc on vit dans des sociétés de plus en plus complexes, et comme elles sont de plus en plus complexes, il faut effectivement des zones transversales. Parce que sinon, ça dérape totalement, et en particulier, vu les outils dont je viens de vous parler, on peut imaginer que ça peut déraper salement quand même. Hein. Donc il faut des zones de fracture, et je pense que vous avez dit ça avec beaucoup d'humour, le dopage au savoir me paraît quand même un élément essentiel pour lutter contre le dérapage. Alors par contre, il y a quand même quelque chose que je tiens à vous expliquer, c'est qu'on peut doper les neurones quand même. Alors là, je vais vous effarer. En fait, on peut faire de la thérapie cellulaire sur les neurones. Et ça va faire peur à tout le monde, parce que grosso modo, la neurobiologie et la neurobiotechnologie, ça va être quelque chose d'assez affolant. Et je suis à peu près persuadé que si on n'arrive pas à régler un certain nombre de problèmes, le sport cérébral qui est les échecs voudra probablement utiliser ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a des facteurs de croissance pour faire pousser les neurones. On est capable de faire cultiver les cellules du cerveau, les différentes cellules du cerveau. Depuis 1 ou 2 ans, un certain nombre de gens ont réussi à corriger des pathologies neurologiques par thérapie cellulaire, dont des Français, je vous le rappelle, Marc Péchinski notamment, et tout ça est lancé. Des centaines d'équipes travaillent déjà
sur des facteurs de croissance pour stimuler les neurones ou pour traiter le cerveau. C'est donc la même problématique que ce que je viens de vous expliquer. Sauf que, bien entendu, si vous me demandez ce que ça va donner le jour où on va l'utiliser vraiment sur l'équilibre de l'individu par rapport à sa potentialité, là, autant vous dire qu'en 2050 ou 2100, il va quand même falloir faire des études sérieuses et des essais sérieux avant de balancer ça dans la nature, parce que quand même, ça risque d'être assez dangereux. C'est pour le peu que là, on sera en expérimentation totale, parce qu'on expérimentera quelque chose qui sera nous-mêmes et il n'y aura pas que le muscle là. Là, on ne contrôlera plus rien. Donc, je ne veux pas vous faire peur. Moi, je reste très optimiste. Mais vous voyez que votre question n'était pas aussi anodine que ça. Le neurone, ça peut se doper également. Et je ne connais pas bien le résultat du dopage du neurone, parce que c'est à faire. Mais on pourra le faire.
Merci beaucoup.